Chapitre 31, le message. Jonas s'adosse au mur et cligne des yeux pour retrouver la vue. Il perçoit une présence à ses côtés, quelqu'un qui l'a suivi depuis la pièce où se trouvaient les deux jeunes nus. Il sent une main sur son dos et distingue les traits d'un visage à travers le voile noir de la douleur. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demande Saga Bauer à voix basse. « Tu es blessé ?» Il tente de secouer la tête, mais la douleur l'empêche de parler. Il a l'impression qu'un crochet lui transperce la peau, le crâne et le cortex cérébral jusqu'au liquide céphalo-rachidien. Jonas s'agenouille. « Il faut te sortir de là !» dit-elle. Il ne peut presque rien voir, mais sent Saga prendre son visage dans ses mains. Tout son corps est recouvert de gouttes de sueur qui s'écoulent de ses aisselles, de sa nuque et sur son dos. De la transpiration s'est formée sur son visage, dans son cuir chevelu et sur son front. Saga suppose qu'il s'agit peut-être d'une crise d'épilepsie. Elle fouille dans les poches et le portefeuille de Jonas à la recherche d'un médicament ou de la carte que portent en général les épileptiques. Après un moment, la douleur finit par lâcher prise. Jonas passe lentement sa langue sur ses lèvres et relève la tête. Ses mâchoires sont crispées et tout son corps est endolori après la crise de migraine.
« Vous ne pouvez pas encore donner l'assaut !» chuchote-t-il. « Je dois...
Qu'est-ce qui s'est passé, merde ?»«
Rien !» répond Jonas en ramassant son pistolet.
Il se lève et passe de l'autre côté du rideau en plastique aussi vite qu'il le peut. La pièce est vide. Sur le mur, un panneau indiquant une sortie de secours est allumé. Saga le rejoint et l'interroge du regard. Jonas se dirige vers la sortie et découvre un petit escalier abrupt menant à une porte en acier qui donne sur la rue.
« Perkele !» marmonne-t-il.
« Parle-moi !» dit Saga d'une voix autoritaire. Jonas a pris l'habitude d'occulter la cause directe du mal dont il souffre. Il refuse de penser à ce qui s'est passé tant d'années auparavant, à ce souvenir qui déclenche parfois une douleur capable de l'assommer pendant environ une minute. Selon son médecin, il s'agit d'une forme extrême de migraine d'origine physique. Le seul médicament qui se soit montré efficace est l'Epitomax, un traitement préventif contre l'épilepsie. Jonas est censé le prendre quotidiennement, mais lorsqu'il travaille et qu'il a besoin d'avoir les idées claires, il ne prend pas ses comprimés. Ce traitement le fatigue. Il a l'impression qu'il émousse l'absolue netteté de ses pensées. Jonas sait qu'il joue un jeu dangereux. La plupart du temps, le fait de ne pas suivre son traitement, même pendant des semaines, n'a aucune conséquence. Mais parfois, comme aujourd'hui, il peut être victime d'une crise fulgurante après quelques jours d'arrêt seulement.
« Ils ont torturé un gars, un néo-nazi, je crois, mais... »«
Torturé ?»«
Oui, avec un cigare. »
répond-il en empruntant le couloir par lequel il est arrivé.
« Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Je ne pouvais pas...
Écoute !» l'interrompt-elle d'une voix douce.
« Tu ne devrais peut-être pas, je veux dire, travailler sur le terrain, si tu es malade. »
Elle se passe la main sur le visage.
« Quel merdier !» chuchote-t-elle.
Jonas se rend dans la pièce à la lampe clown. Saga marche derrière lui.
« Qu'est-ce que tu fous là d'abord ?» lui demande-t-elle. « Les unités d'élite de la CEPO vont forcer les locaux d'un instant à l'autre. S'ils voient que tu es armé, ils vont tirer, tu le sais. Il va faire sombre, il y aura du gaz lacrymogène et... »«
Je dois parler avec Daniel Marklund !» l'interrompt Jonas.
« Tu ne devrais même pas savoir qui c'est !»
dit-elle en le suivant en haut de l'escalier en colimaçon.
« Qui t'en a parlé ?»
Jonas se dirige vers l'un des couloirs, mais fait volte-face lorsqu'il sent que Saga lui indique un autre chemin. Il la suit alors qu'elle se met à courir. Il dégaine son arme, tourne à l'angle du couloir et l'entend crier quelque chose. Saga s'est arrêté à l'entrée d'une pièce où sont installés 5 ordinateurs. Un homme barbu aux cheveux sales se tient dans un coin. C'est Daniel Marklund. Ses lèvres sont humides et il semble nerveux. Dans sa main, il tient un couteau baïonnette russe.
« Nous sommes de la police, et nous vous prions de poser ce couteau !»
dit-elle d'une voix calme en montrant sa carte de police. Le jeune homme secoue la tête et agite son couteau devant lui, les menaçant tour à tour.
« On veut juste vous parler !» dit Yona en remettant son pistolet dans la gaine.
« Alors allez-y, parlez !»
dit Daniel d'une voix tendue. Yona se dirige vers lui et croise son regard inquiet. Il semble n'accorder aucune attention au couteau tendu vers lui, à la lame qui fend l'air.
« Daniel, vous n'êtes pas très doué pour ça !» dit Yona avec un sourire.
Il sent l'odeur de la graisse qui recouvre la lame luisante. Le couteau baïonnette est agité de mouvements de plus en plus brusques et Daniel Marklund fixe Yona avec détermination lorsqu'il lui lance
« Il n'y a pas que les Finlandais qui sont forts oh !»
Yona procède alors à une rapide prise de combat. Il saisit le poignet du jeune homme et tord le couteau délicatement avec son autre main pour venir le plaquer sur le bureau. Le silence retombe. Il s'observe un moment, puis Daniel Marklund hausse les épaules.
« Je suis surtout dans l'informatique, » dit-il comme pour s'excuser. « Nous allons bientôt être interrompus. Racontez-nous seulement ce que vous faisiez chez Pénélope Fernandez. »«
Je passais dire bonjour. »«
Daniel, » dit Yona d'une voix grave. « Cette petite histoire de couteau vous vaudra certainement une peine de prison. Mais j'ai des choses plus importantes à faire, et je vous offre la possibilité de me faire gagner un peu de temps. »«
Est-ce que Pénélope fait partie de la Brigadaine ?» demande Saga.
« Pénélope Fernandez ?» répond Daniel Marklund en souriant. « C'est une farouche opposante. »«
Alors qu'est-ce que vous avez à voir avec elle ?» demande Yona.
« Qu'est-ce que vous voulez dire par opposante ?» demande Saga.
« Est-ce que c'est une lutte pour le pouvoir entre... »«
Vous ne savez donc rien à la CEPO ?»
demande Daniel avec un sourire là.
« Pénélope Fernandez est pacifiste. C'est une démocrate convertie. Elle n'apprécie pas nos méthodes. Mais nous, on l'apprécie. »
Il s'installe sur une chaise devant deux ordinateurs.
Vous l'appréciez.
On la respecte.
Pourquoi ?
Demande Saga étonné.
Pourquoi est-ce que vous ne saisissez pas à quel point elle est détestée ? Je veux dire, commencez par chercher son nom sur Internet. Vous verrez qu'elle suscite des commentaires assez violents. Et maintenant, quelqu'un a franchi les limites.
Comment ça, franchi les limites ? Daniel les scrute du regard.
Vous savez qu'elle a disparu, non ?
Oui, répond Saga.
Bien, c'est bien, mais je doute que la police mette tout en œuvre pour la retrouver. C'est pour ça que je suis passé chez elle. Je voulais vérifier son ordinateur pour voir qui se cache derrière sa disparition. Je veux dire, il n'y a pas longtemps, le Svenska Motståndsrörelsen a effectué un mailing à l'intention de ses membres, qui les exhorte à mots à peine couverts à kidnapper cette pute communiste de Pénélope Fernandez et en faire une esclave sexuelle pour le mouvement. Mais regardez plutôt ça.
Daniel Marklund pianote sur le clavier d'un des ordinateurs et fait pivoter l'écran vers Yona.
Voilà, on est connecté à Ariska Brudraskapet.
Yona parcourt l'écran du regard. Ils sont sur un chat dont les commentaires, d'une vulgarité grotesque, parlent de bites ariennes et de la façon dont on doit abattre Pénélope.
« Mais ces groupes n'ont rien à voir avec la disparition de Pénélope, » dit Yona.
« Ah bon, vraiment ? Qui c'est alors ? Nordiska Förbundet ?» demande Daniel d'une voix enthousiaste.
« Allez, il n'est pas encore trop tard. »«
Qu'est-ce que vous voulez dire par « il n'est pas trop tard » ?» demande Yona.
« Généralement, il est trop tard lorsqu'on décide de réagir. Et puis, j'ai intercepté un message sur le répondeur de sa mère. Je veux dire, ça a l'air d'être une sacrée urgence, mais il n'est pas trop tard cette fois. » J'ai été obligé de vérifier son ordinateur et...
Intercepter ? L'interrompt Yona.
Elle a essayé d'appeler sa mère hier matin,
répond le jeune homme en se grattant le cuir chevelu d'un mouvement stressé.
Pénélope ?
Ouais ?
Qu'est-ce qu'elle a dit ?
Demande Saga avec empressement.
Il n'y a pas que la CEPO qui sait mettre des téléphones sur écoute,
dit-il avec un sourire en coin.
Que disait Pénélope ? Répète Yona d'une voix forte.
Qu'elle est poursuivie. Répond Daniel Marklund entre ses dents.
« Que disait-elle exactement ?» insiste Yona.
Daniel jette un coup d'œil à Saga Bauer, puis demande « Nous avons combien de temps avant que vous ne lanciez votre assaut ?» Saga consulte sa montre.
« Entre 3 et 4 minutes.
Alors vous avez le temps d'écouter ça, » dit Marklund en pianotant rapidement sur un autre clavier pour lancer un enregistrement sonore. Les enceintes sifflent. Puis... ils entendent l'annonce du répondeur de Claudia Fernandez. Il y a ensuite 3 bips, suivis d'un fort grésillement indiquant une très mauvaise réception. Malgré les interférences, ils distinguent une faible voix, comme venue de très loin. C'est une femme qui parle, mais les mots sont incompréhensibles. Après quelques secondes, ils entendent un homme dire « Trouver un travail ». Un petit clic et le silence.
« Pardon, » marmonne Daniel. « Il faut que j'installe quelques filtres. »«
Le temps presse !» marmotte Saga.
Il pianote à nouveau sur le clavier, modifie un réglage, examine les courbes de son dessinées sur son écran, change quelques chiffres et lance de nouveau l'enregistrement.
« Vous êtes bien chez Claudia. Je ne peux pas vous répondre pour le moment, mais laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible. »
Les trois bips sonnent différemment et le grésillement est désormais réduit à un faible tintement métallique. Soudain, ils entendent la voix de Pénélope Fernandez.
« Maman, j'ai besoin d'aide. Je suis poursuivi par « Trouver un travail »,
coupe la voix d'un homme. Puis, de nouveau le silence.